J'apprécie beaucoup la croissance qu'il y a dans l'œuvre actuellement et votre loyauté à vous ici et à tous les frères et sœurs à travers le monde. L'œuvre grandit et plus ça se produit, plus nous allons avoir d'impact à travers le monde. Nous avons eu, au fait du printemps, une augmentation de 8% lors des jours saints. Et c'est merveilleux. Monsieur McNair et Debbie au bureau d'administration ont mis les chiffres ensemble et le rapport est vraiment encourageant. Mondialement parlant, on a entre 8 et 9 % d'augmentation dans le monde entier. Alors, il y a de la croissance. Et nous allons avoir encore de la croissance. Je suis convaincu. À mesure que les événements prophétiques vont continuer de se développer, comme c'est le cas. Alors, nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cela. Frères et sœurs, je vais vous parler aujourd'hui sur ce qui nous attend immédiatement. Où en sommes-nous dans l'accomplissement de la prophétie biblique? Et qu'est-ce que nous devons être en train de faire présentement? Où en sommes-nous rendus dans les prophéties? Il y a longtemps que je ne vous ai pas donné de sermon sur la prophétie et beaucoup de choses se sont produites dernièrement. On a eu des tornades terribles au cours des derniers mois et je ne peux pas vous donner, bien sûr, tous les détails de ces choses-là. On a vu ce qu'on a appelé les renversements de gouvernement, le printemps arabe au nord de l'Afrique et au Moyen-Orient, y compris en Syrie, Bahreïn et dans les autres nations de la région, il y a plusieurs renversements de gouvernement. En Australie, il y a eu une inondation de proportions bibliques. Il y a des milliers d'acres de production agricole qui ont été éliminés, détruits. Il y a eu une série de tremblements de terre aussi qui ont frappé en Chine, au Japon, aux Philippines, dans cet hémisphère aussi, en Haïti, au Chili. Et le gros tremblement de terre qu'il y a eu au Japon, suivi d'un immense tsunami, a été terrible, un des plus grands tsunamis dans l'histoire. Ces choses-là ont des proportions bibliques. Et nous voyons ici, en Amérique, aux États-Unis, une série de tornades qui font d'énormes dommages. En plus, il y a une sécheresse majeure au Texas. Il y a des feux de forêt qui font rage actuellement. Nouveau-Mexique, Texas, Arizona. Alors, ça détruit des grandes zones de production agricole et ça va affecter les réserves de nourriture. Déjà, le coût de l'alimentation augmente et ça va continuer d'augmenter avec tous ces désastres qui se produisent. Ces choses se produisent à grande échelle maintenant. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, bien sûr. Tout ça se produit à travers le monde. Allons à Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Il y a un certain nombre de personnes qui sont nouvelles avec nous. Alors, c'est important que vous voyez ces choses-là et même pour les anciens, vous qui êtes dans l'Église depuis très longtemps, il nous faut approfondir ces choses-là et les comprendre comme il faut. Matthieu, chapitre 4, c'est un récit très élaboré. C'est la prophétie que le Christ a donnée, décrivant les événements précédant immédiatement son retour. Matthieu 24, et le verset 3, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. » Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Non pas la fin de l'existence du monde, mais la fin de cette société actuelle. Dieu a accordé 6000 ans aux êtres humains pour faire leurs propres expériences selon leurs propres idées en termes de religion, en termes de gouvernement, en termes d'économie. Dans tous les domaines d'activité, les hommes ont bâti leur propre société avec leur propre littérature, leur propre système de divertissement et ainsi de suite. Dieu leur a donné aux êtres humains 6000 ans pour faire les choses à leur façon. Et le Christ va revenir bientôt. Le vrai Christ que la plupart des êtres humains ne comprennent pas. Ils vont le combattre lorsqu'il va revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Ils ne se moqueront pas de lui, vous allez voir. S'il revenait comme la première fois, maintenant, vous savez, le monde voudrait le tuer. Et lorsqu'il va revenir sur la terre, on le sait par les textes bibliques, des nations entières vont lutter contre lui. Ils vont unir leurs forces par des grandes armées pour s'en prendre à lui. Le Christ a décrit ici ce qui va arriver, ce qui se produit sous nos yeux. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Est-ce que ce sera un boulanger, des bouchers, des maçons qui vont venir au nom de Jésus? Non, ce sont des prédicateurs qui viennent au nom de Jésus, des faux ministres qui séduisent beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il y aura des guerres mondiales. Il y aura des famines. La prochaine chose dont il parle ici, c'est les famines, un manque de nourriture, et c'est en train de se développer. Il y a plusieurs articles qui paraissent à ce sujet-là, dans le New York Times, dans le journal The Wall Street. Le Wall Street Journal, c'est un des meilleurs journaux actuellement. Ça ne parle pas seulement d'économie, mais ça touche les différents aspects de la vie humaine et de ce qui se passe sur la face de la Terre. Ça coûte 2 $ par unité, bien sûr, par jour, mais si vous le faites venir par abonnement annuel, c'est beaucoup moins dispendieux. Ça donne des informations très précieuses. Il parle avec autorité. C'est basé sur des recherches sérieuses. Des journaux comme le Wall Street Journal disent et décrivent ce qui se passe réellement, et ça correspond à ce que le Christ disait ici. Des tremblements de terre en différents endroits. Vous savez, les tremblements de terre vont être partout, y compris chez nous. Et le Christ dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. J'aimerais préciser un point ici. On a une bonne nouvelle, c'est que nous avons maintenant une nouvelle station de télévision en Californie qui s'appelle KCAL. Et nous allons commencer à diffuser l'émission du monde de demain matin à 7 heures, heure locale. Alors ça, c'est une nouvelle formidable. Ça va couvrir la région de Los Angeles, des millions de téléspectateurs possibles. Quand j'ai mentionné ça à certains membres, ils m'ont dit que c'est une station qui a de grandes cotes d'écoute. Et nous allons atteindre probablement plus de 7000 réponses par émission à mesure que nous allons développer notre auditoire. M. Pyle s'occupe de ça et nous tient au courant des réactions. Et nous allons avoir un impact, vous savez, avec ces choses-là. Je voulais aller sur cette station-là et je demandais à Dieu de nous donner une bonne station de télévision à Los Angeles, à San Francisco, à Seattle. Pourquoi? Parce qu'ils vont éprouver des tremblements de terre bientôt et ils auront des tsunamis aussi bientôt. Je veux les rejoindre avec la vérité de Dieu avant qu'ils soient frappés de cette façon-là. Vous savez, on a vu les tremblements de terre se développer en Chine, au Japon, aux Philippines, en Indonésie et en Nouvelle-Zélande, au Chili, autour de ce qu'on appelle le cercle de feu ou la ceinture de feu à travers le monde. C'est une faille avec des volcans éteints partiellement, d'autres sont encore en activité ou en semi-activité. Ça vient jusque sur la côte ouest américaine. Le Chili a été frappé à 2 reprises dernièrement. Les États-Unis n'ont pas encore été frappés, mais nous sommes les prochains, ne l'oubliez pas. Ça s'en vient bientôt sur les États-Unis. Il nous faut le reconnaître et nous devons prier pour nos frères dans ces régions afin que Dieu les protège à San Francisco et dans la région d'Oakland, sur la côte ouest. Ces choses-là, frères et sœurs, vont changer notre vie. Vont changer notre vie complètement. C'est pourquoi nous diffusons nos émissions sur la côte ouest. Demandez à Dieu avec moi de nous donner les ressources pour aller sur d'autres stations. À San Francisco, à Oakland, ce sont des régions de plusieurs millions de personnes. À Seattle, Tacoma, il y a environ 3 ou 4 millions de personnes là aussi. Et bien sûr, la région de Los Angeles comprend plus de 10 millions de personnes, beaucoup d'êtres humains faits à l'image de Dieu. Nous devons les atteindre. Ce sont des villes d'Israël. Christ nous a dit, vous n'aurez pas le temps de finir de faire le tour des villes d'Israël que je serai revenu. Nous avons un travail à faire. Le Christ a dit, il y aura des tremblements de terre un peu partout sur la terre. Il dit, ce sera seulement le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous savez, Ce ne sera pas un jardin de roses, ce qui vient. À mesure que notre œuvre va grandir en puissance et en impact, il nous faut nous attendre à des persécutions. Et vous ferez mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça indique, frères et sœurs, et d'autres déclarations de la Bible le montrent également, ça indique quelque chose de précis. Ça indique clairement que quelque part sur cette terre, à la fin des temps, là où nous sommes, il doit y avoir une branche de l'Église de Dieu, de la vraie Église de Dieu, qui accomplit une œuvre puissante. Cette œuvre-là sera tellement retentissante que les gens sauront qui nous sommes et ils vont commencer à venir après nous. Je ne veux pas que vous restiez à la maison et ne pas venir à l'Église, mais il vous faut compter le coût pour être un vrai chrétien. Certains vont commencer à venir après nous. Nous devons le reconnaître et nous devons être proches de Dieu. Ils vont nous haïr et ils ne peuvent pas nous haïr à moins de savoir qui nous sommes. Les gens ne savent pas qui nous sommes maintenant. Même ici, à Charlotte, qui est une grande ville, les gens ne savent pas qui nous sommes, mais ces choses-là vont changer à mesure que les événements vont frapper la nation. L'Église sera davantage connue. Verset 11, plusieurs faux prophètes, pas simplement quelques-uns, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, être contre l'autorité, on montre aux gens à ne pas obéir à l'autorité, aux professeurs, aux parents, et ainsi de suite. Vous savez, nos systèmes d'éducation ont favorisé ces choses-là, malheureusement, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Nous devons obéir à nos parents, nous devons respecter les enseignants et respecter ceux en autorité dans nos gouvernements. Mais les gens ont de plus en plus une attitude d'anti-autorité. L'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui ne quittera pas, lui sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Le royaume, c'est le gouvernement de Dieu, sera prêchée dans le monde entier. C'est une certitude de la part de Dieu. Pourquoi? Non pas pour convertir les gens, mais pour servir de témoignage. Les gens vont nous haïr, mais ils vont entendre le message en tant que témoignage. Ils auront été avertis. Lorsque les choses vont frapper encore davantage, ils ne pourront pas dire à Dieu, « Dieu, Dieu, pourquoi ne nous as-tu pas averti? » Dieu va leur dire, « Je vous ai averti par mes serviteurs, par mon Église, par l'émission du monde de demain. » C'est ce que Dieu va faire. Sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ces choses-là se développent maintenant. C'est pourquoi, verset 15, c'est marqué dans Daniel 9 et dans Daniel 11. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, autrefois, ça s'est réalisé dans le passé. Ça a été un prototype, si vous voulez, un symbole de ce qui va se reproduire bientôt. Antiochus Épiphane a mis une statue dans le temple de Dieu, une statue d'un faux dieu. C'est un symbole de l'Antéchrist au temps de la fin. Et ils ont offert du sang de porc sur l'autel. La même chose va se reproduire à Jérusalem. Vous savez, que ce soit sur un autel à l'extérieur ou dans un temple que les Juifs pourraient construire rapidement, ces choses-là vont se passer, vont se réaliser. Il y aura quelque chose à Jérusalem qui va permettre à ces choses-là de se passer. Ils vont désacraliser, pour ainsi dire, le temple. Ce sera l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Nous avons donné des sermons là-dessus. Surveillez, surveillez le Moyen-Orient. Regardez ce qui se passe. Voyez actuellement comment les leaders du monde arabe, qui sont pour la plupart comme Moubarak et d'autres, sont des leaders qui ne sont pas des extrémistes religieux, ce ne sont pas des islamistes extrémistes. Maintenant, le vent est en train de tourner et les frères musulmans, comme on les appelle, une organisation puissante au Moyen-Orient, ils commencent à remplacer les dictateurs qui sont mis dehors actuellement. Et cela va changer les choses. Vous allez voir. La démocratie, de toute façon, ce ne sera pas la voie du futur. De plus en plus de nations vont se détourner de la démocratie. On a par exemple la République démocratique du Congo, comme vous avez lu, Mais ça fait rire un peu lorsqu'on parle de ça, parce qu'il n'y a pas de démocratie là. C'est une dictature horrible. Et les nations en Amérique du Sud, Amérique centrale, en Asie, au Moyen-Orient, se détournent de toutes sortes de démocraties. La forme finale de gouvernement, ce ne sera pas des politiciens qui promettent et qui promettent et qui promettent, qui mentent et qui ne réalisent pas leurs choses, qui profitent des gens non éduqués. C'est ce que la démocratie est. Pensez-y. Il nous faut nous préparer à la grande détresse. Réveillez-vous, et vous, jeunes gens, réveillez-vous. Soyez sur vos gardes. Ces choses-là se passent actuellement et vont se développer de façon majeure au cours des prochaines années. Je pense que les plus grandes choses qui vont se produire dans l'histoire de l'humanité vont commencer à se produire d'ici 3 à 6 ans. Rappelez-vous de mes paroles. Dans 6 ans, ce sera le printemps de 2017. Je pense qu'il y a des choses massives qui vont s'être produites d'ici là, qui vont changer votre vie entière, vous ici et vous à travers le monde. Jeunes gens et gens plus âgés dans l'Église, votre vie va changer parce qu'il y a un Dieu réel. Et ce Dieu réel commence à intervenir comme il l'a promis. Il permet que toutes ces tornades frappent l'Amérique maintenant et il permet que des inondations de proportions bibliques se produisent en Australie et ailleurs. On vient d'avoir un grand tremblement de terre au Japon avec beaucoup de morts. Et tout ça, ça s'est passé à l'intérieur de quelques mois, je vous fais remarquer. Ça se produit très rapidement et ça va s'accroître en vélocité et en rapidité au cours des prochains mois et des prochaines années. Dieu commence à intervenir et à ébranler les nations. Les gens vont devoir réaliser à quel point ils sont petits et à quel point Dieu est grand. Il nous faut comprendre ces choses-là. Ces choses vont se produire. C'est la chose la plus terrible qui va se produire. Verset 21, « Car la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde. » Et verset 22, « Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Dieu, par miséricorde, va mettre un terme à cette grande détresse. Ça aurait pu être 7 ans, mais Dieu va faire cesser ça après 3 ans et demi. Le jour du Seigneur, c'est la dernière année des 3 années et demie de la grande détresse. Alors, ces choses-là se préparent et vont arriver. Il nous faut vraiment le revoir et comprendre où nous sommes rendus, où sommes-nous rendus dans la prophétie. Ces choses se passent avec force maintenant de plus en plus. Allons à Lévitique chapitre 26. S'il vous plaît, comprenez bien ces choses-là. Récemment, j'ai commencé à mettre un gros W dans la marge à chaque endroit du Nouveau Testament où ça cite l'Ancien Testament. Je mets le mot W, le mot Word en anglais, parole de Dieu autrement dit. L'homme doit vivre non pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comme le Christ nous a enjoint de faire. Et au moment où le Christ était sur la terre, la seule écriture qu'il avait à ce moment-là, c'était l'Ancien Testament. Allons à Lévitique, chapitre 26. Ici, il s'adresse à nos ancêtres. Certains d'entre nous, ici dans l'Église, ne sont pas d'origine anglo-saxonne. Certains d'entre vous sont noirs, d'autres sont orientales ou espagnols ou de d'autres origines. Mais vous faites partie de l'Église, vous êtes Israël spirituel et vous allez être à la résurrection en même temps que les autres. Par contre, vous vivez sur la terre de Joseph parce que le territoire des États-Unis et de la Grande-Bretagne et les pays de langue anglaise sont les pays d'Israël moderne. Et vous savez, lorsque les bombes tombent sur un pays, ils ne font pas de différence entre les nations. Ça tombe sur tout le monde qui sont là, tout simplement. Alors, il faut comprendre ces choses-là. Voici ce que Dieu dit à nos ancêtres ici, Lévitique 26 et le verset 3. « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai la pluie en leur saison, la terre donnera ses produits. Vous allez manger votre pain et vous allez vivre en satiété, il y aura de la paix dans le pays. » Verset 6. Donc, les bénédictions qui allaient venir de l'obéissance. Mais, verset 14, Lévitique 26, verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous mes commandements, Dieu dit, je vais vous punir. Qu'est-ce qu'on fait dans nos nations, aux États-Unis en particulier? On ne peut même plus mettre les commandements en affichage dans les endroits publics maintenant. Et les enfants à l'école ne peuvent plus faire le serment d'allégeance parce qu'on parle de Dieu. Et à la télévision, qu'est-ce qu'on voit? Les gens utilisent la comédie. On utilise la comédie et l'humour pour mépriser Dieu et mépriser les lois de Dieu. On essaie de ridiculiser qui que ce soit qui n'est pas en faveur de l'homosexualité. Dieu appelle l'homosexualité une abomination. Tout au long de la Bible, c'est très clair. Même dans le Nouveau Testament. Ceux qui font ça reçoivent en eux-mêmes le salaire de leur péché. Ils ont le sida et d'autres maladies terribles. Ils transgressent les lois de Dieu sur le plan spirituel et sur le plan physique et leur chair se détruit parce qu'ils ont transgressé ces lois-là. Ils rejettent le mariage qui est une représentation de la relation de Jésus-Christ avec son Église qui doit produire des enfants pour Dieu. Alors, voyez-vous, ils salissent le plan de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de drôle. C'est condamnable. Dieu va mettre un terme à ça. Les jeunes gens vivent ensemble sans être mariés aujourd'hui. Le prince William et sa nouvelle épouse ont eu un beau mariage. On a dit ce matin qu'ils n'auront pas de voyage de noces. Ils n'ont pas besoin. Vous savez, parce qu'ils ont vécu ensemble pendant des années. Les gens disent qu'il ne faut pas parler de ça. Mais il faut en parler, parce que c'est la réalité. Jean-Baptiste a dit à Hérode, tu ne dois pas vivre avec la femme de ton frère. Le prince William pourrait devenir le chef de l'Église d'Angleterre et il a commencé à vivre pendant des mois avec sa fiancée avant de la marier. C'est contraire aux lois de Dieu. Et c'est quelque chose de mauvais aux yeux de Dieu. Voilà à quel point nous sommes déchus. Occasionnellement, je regarde les magazines de fin de semaine, les revues de fin de semaine, et c'est frappant de voir. Mademoiselle, une telle vit avec son petit ami. Ils ont pris le petit déjeuner ensemble. Est-ce que c'est pas joli? Et on parle des vedettes de la télévision, des vedettes du cinéma qui se marient, qui se divorcent, qui se remarient. On ne parle plus désormais des grands hommes ou des grandes femmes qui accomplissent de grandes choses. On fait de grands articles maintenant et beaucoup d'éclats sur les péchés que les gens font. Et ils disent ce qu'ils mangent pour déjeuner. Je me fous de ce qu'ils mangent pour déjeuner. On en amène la confusion dans les jeunes gens qui ne comprennent pas le but de la vie. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont ici, où ils s'en vont et ils ne savent pas le but de l'existence. Alors, c'est eux qui sont les vedettes. Dieu dit, celui qui s'exalte parmi les hommes devra être abaissé si vous méprisez mes commandements et mes ordonnances. Et c'est ce que nous faisons dans nos nations. Nous détestons dans nos nations les voies de Dieu au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Les ordonnances et les statuts, ça comprend les jours saints de Dieu. Ça inclut le commandement qui dit de ne pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est un des commandements que Dieu donne. Les gens diluent ces choses-là. Comme par exemple, les gens ne payent pas leur dîme. Ils volent Dieu. Non, non, vous n'en échapperez pas si vous faites ça. M. Armstrong a écrit un article un jour là-dessus sur l'homme qui ne pouvait pas payer la dîme. Mais il a décidé de payer sa dîme quand même s'il n'avait pas le moyen. Il y a eu une grande inondation dans la région et c'est sa récolte qui a été épargnée. Tous les autres producteurs agricoles autour ont perdu totalement leur récolte. On ne peut pas se permettre de ne pas payer la dîme. Est-ce que ça veut dire que Dieu va faire descendre du feu du ciel sur vous si vous ne payez pas votre dîme? Demain matin, Non, mais ça veut dire que Dieu ne vous bénira pas en bout de ligne si vous volez Dieu. C'est aussi clair que ça. Ce sont ses statuts. Si vous brisez mes lois, voici ce que je vous ferai. Je vous enverrai la terreur. J'enverrai sur vous la terreur. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Le terrorisme, le 11 septembre. Il y a eu des attaques terroristes un peu partout à travers le monde et nous allons en connaître plus. Il y a des tornades qui se multiplient et qui vont encore se multiplier. Les tremblements de terre et les autres choses, ce sera aussi des choses terribles qui font partie de la terreur qui va terroriser les gens. La langueur et la fièvre, la maladie la plus terrible à notre époque, c'est le sida où la chair elle-même se détruit. Pourquoi? Parce que ça détruit le plan de Dieu et leur propre corps se détruit. Et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, vous sèmerez en vain vos semences. Vous aurez des déluges d'eau dans certaines régions, vous aurez des tornades dans d'autres régions, vous aurez des sécheresses effrayantes et vos productions agricoles vont être frappées. Si vous ne revenez pas à moi, je vous punirai 7 fois plus. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus. Verset 19, je briserai l'orgueil de votre force. C'est ce que Dieu fait actuellement. Il brise l'orgueil de la force de l'Angleterre et des États-Unis. Avant ça, le monde nous regardait avec beaucoup de respect, mais maintenant, c'est le contraire. On le voit clairement, même par les articles des journaux. Nous commençons à être méprisés et les gens à travers le monde méprisent l'Angleterre et les États-Unis. Nos forces militaires sont affaiblies. Nous sommes rendus maintenant à une troisième guerre, celle de Libye. Ça ruine le moral de nos troupes. De plus en plus de nos jeunes hommes se suicident. Ceux qui sont en mission, éloignés de leur maison, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Nous manquons maintenant d'équipements militaires et de pièces de remplacement, de munitions. Nous allons vers la faillite. C'est ce qui se passe maintenant. Et ça va frapper très fort au cours des prochaines années, d'ici 2-3 ans. C'est un Meredith 2-3, si vous voulez. C'est ce que je pense, comment je vois les choses. Vous allez voir ce qui va se produire. Votre force s'épuisera. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Je vais rendre votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Autrement dit, en certaines régions, il n'y aura pas de pluie. Dans Amos et dans Osée, il est clairement dit que dans certaines régions, il y aura trop d'eau. Dans certaines autres régions, ce sera la sécheresse extrême. Et Dieu a annoncé ça il y a des milliers d'années et il le fait s'accomplir maintenant. Ces choses-là vont se réaliser. Nous allons avoir des pénuries alimentaires, des émeutes pour la nourriture. Nous allons assister à des émeutes pour de l'emploi. J'espère que vous le comprenez très bien. Même si nous sommes de races différentes dans l'Église de Dieu, c'est l'Église de Dieu. Nous devons nous aimer et nous servir entre gens de races différentes dans l'Église. Notre citoyenneté à nous, ce n'est pas le gouvernement autour de nous. Notre citoyenneté est dans le ciel. Lorsque le Christ va revenir, il va amener avec lui nos récompenses. Nous honorons les leaders de nos gouvernements physiques et nous reconnaissons les bonnes choses qu'ils font parfois pour le pays, mais notre citoyenneté est dans le ciel. Nous entrons dans un temps de chaos économique. J'ai entendu une émission il y a quelques mois. C'est un programme très long qu'ils ont consacré à l'économie. Ça décrivait comment les États-Unis impriment des trillions de dollars américains, et ce n'est pas appuyé sur de l'or ou sur une meilleure productivité. L'argent américain vaut de moins en moins, comme ça s'est produit dans les années 20 pour l'Allemagne. À ce moment-là, quand ça allait mal, ils ont imprimé de plus en plus d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, après qu'ils ont commencé à faire ça, ils payaient les ouvriers même chaque heure et les épouses de ces hommes-là se rendaient au lieu de travail de leur mari avec des brouettes parfois, ils prenaient tout cet argent et allez acheter quelque chose tout de suite avant que les prix remontent à l'heure suivante. C'est là qu'Adolf Hitler est arrivé en scène. Ça l'a préparé la voie à un homme fort pour prendre le contrôle. Et ça va se passer encore une fois en Allemagne. Ici, nous allons avoir beaucoup d'inflation, peut-être de l'hyperinflation, beaucoup de pauvreté, parce qu'on imprime de l'argent de Monopoly. Vous savez, nous sommes dépendants de ceux à qui nous avons emprunté l'argent. Les Chinois pourraient nous jeter par terre les États-Unis du jour au lendemain. Certains experts prétendent qu'ils ne le feront pas parce que les Chinois veulent que nous continuions d'acheter leur production. Mais les Chinois, actuellement, sont en train d'acheter davantage d'or, d'acheter davantage d'argent de d'autres pays et de se défaire des dollars américains. C'est ce qui se passe au moment où je vous parle. Ils se rendent compte que l'argent américain ne vaudra plus grand-chose très bientôt. Les autres nations à qui nous devons font la même chose. Alors, l'orgueil de notre force est en train d'être brisé. Les gens qui connaissent vraiment l'économie sont en train de sortir leur fortune des États-Unis. Et Dieu dit, verset 21, « Si vous me résistez et si vous ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. » Et là, il décrit d'autres choses qu'il va faire. Et après, il y aura des sécheresses encore plus grandes. Les gens vont littéralement mourir de faim. Il y aura malheureusement même du cannibalisme dans nos pays. Ces choses-là commencent à se développer dans cette direction-là. En outre, le militantisme islamique augmente et c'est en train de s'étendre à travers le monde. Ça devient très fort en Europe, vous savez, dans les pays d'Europe. Vous savez, les pays d'Europe commencent à s'élever contre ce qui se passe dans leur pays en ce qui concerne la religion islamiste. En Suisse, le pays ne permet plus de construire aucune mosquée et ça irrite les musulmans. Le président Sarkozy a fait passer une loi comme de quoi les femmes en France ne doivent plus porter la burqa, ce costume ridicule. Il garde les femmes en prison sous cet amas de tissu. Certaines femmes même veulent le porter, mais ils ne connaissent pas la vérité. La réaction des pays européens par rapport à ces situations-là vont irriter les nations arabes. Et les nations arabes vont s'unir dans ce contexte-là. Comme je vous ai dit, les leaders séculiers des nations arabes sont en train d'être mis dehors et vont être remplacés de plus en plus par des leaders militants islamiques extrémistes. Ils vont imposer la charia. Ces gens-là haïssent les Occidentaux, ils veulent nous tuer et ils veulent tuer les gens qui n'appartiennent pas à leur religion. C'est horrible. À un moment donné, il y aura une réaction des pays arabes. Les pays arabes vont s'unir et vont provoquer la bête en Europe. Parce qu'on sait qu'il y a 10 nations qui vont former la dernière résurrection de l'Empire romain en Europe. L'Europe sera très puissante militairement. Et elle va fondre sur les pays islamiques. Alors, surveillez les frères musulmans et les autres musulmans extrémistes prendre le contrôle au nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. Tout ça va amener le fait qu'il y aura le roi du Sud, que va apparaître un leader de ces religions-là. Je ne prétends pas qu'il va apparaître d'ici 1, 2 ou 3 ans, mais au moins dans 3 ans ou plus d'ici. J'ai déjà vu quelqu'un qui me faisait penser à ce personnage-là. Je me rappelle de Gamal Abner Nasser, le chef de l'Égypte, en 1963. Partout où on allait en Égypte, j'étais là à ce moment-là, on allait dans les magasins ou on sortait d'un salon de barbier ou d'un hôtel et on entendait chaque soir une voix qui criait dans les haut-parleurs, « Israël, Israël !» C'était Nasser, le chef de l'Égypte, qui disait « Poussez les Juifs dans l'océan, détruisez les Juifs. » On a demandé aux gens ce qu'ils disaient. les gens étaient un peu mal à l'aise de nous le dire, mais ils nous ont expliqué ce que ça voulait dire. Et ça va commencer à se développer encore une fois. Les gens au Moyen-Orient vont continuer à appeler encore plus fortement l'Amérique le grand Satan parce qu'ils nous haïssent, ils haïssent les États-Unis parce que les États-Unis ont un meilleur système. Et notre façon de vivre ou nos voies de vie sont plus faciles, notre style de vie est plus facile et surtout par le fait aussi que nous supportons les Juifs et ils détestent les Juifs, donc ils détestent ceux qui sont associés aux Juifs, si vous voulez. Alors, ils vont nous haïr, ils vont vouloir nous tuer. On brûlera des drapeaux davantage des États-Unis au Moyen-Orient. On tuera encore davantage de voyageurs étrangers qui vont dans ces régions-là. Ces choses-là vont se produire. La bête est en train d'apparaître. Au début, il y avait seulement 6 nations. Et les gens se moquaient de ce que nous annoncions il y a plusieurs dizaines d'années. Les gens disaient, ah, ils sont pas 10, ils sont 6. Maintenant, ils sont 27 en Europe. Et là, les gens se moquent en disant, ils sont pas 10. Mais écoutez, en bout de ligne, 10 nations, un noyau de 10 nations fortes vont s'unir. Et ce sera la bête qu'on voit dans Apocalypse 17. Cette puissance sera la puissance qui va dominer sur le monde. Plusieurs soi-disant experts ou érudits pense que le 21e siècle est le siècle de la Chine, mais ce n'est pas le cas, absolument pas. Ce ne sera pas le siècle de la Chine. Ce ne sera pas non plus le siècle de l'Europe, sauf pour quelques brèves années, mais ce sera le siècle du Christ lorsqu'il va revenir et qu'il va établir son gouvernement sur toute la terre. Il nous faut comprendre ces choses-là. Comment est-ce que j'ose dire ça? Parce que la Bible le dit clairement. Veillez et regardez ces choses-là se développer sous vos yeux. L'Empire européen se bâtit. L'Empire romain est en train d'être ressuscité et cet Empire romain sera dirigé par la grande prostituée, Apocalypse 17, par une puissance religieuse. L'Église catholique n'a pas un grand pouvoir physique, mais elle va contrôler la bête, l'Empire romain, ce qu'elle a fait au Moyen Âge et ce qui a amené des tortures, un martyr incroyable et beaucoup de destruction. Ces choses-là vont se reproduire et ça va se passer au cours de la vie de la plupart d'entre vous ici. Daniel chapitre 11 maintenant. Daniel chapitre 11. Verset 40, au temps de la fin, d'ici quelques années, voici ce qui va se passer. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera, c'est-à-dire le groupe de nations arabes avec le chef qu'ils vont se donner, ces pays du Moyen-Orient. Ils vont s'unir ensemble et former une confédération. Alors, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, c'est-à-dire le roi du Nord, l'Empire romain, la bête, selon les termes de la Bible, et le roi du Septentrion, le roi du Nord, la bête, fondra sur lui comme une tempête. Pourquoi? Parce que l'Europe aura un équipement militaire beaucoup plus perfectionné, beaucoup plus puissant, beaucoup plus développé, et des armées beaucoup plus performantes que celles des pays arabes. Un peu comme ça s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. On appelait les attaques des Allemands la Blitzkrieg, les attaques éclairs. Les Allemands fondaient rapidement et soudainement sur les nations, les prenaient par surprise avec leur meilleure technologie de l'époque. Ça va se passer encore. Il fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays. Il va entrer en Israël et plusieurs succomberont. Mais Édom et Moab et les principaux enfants d'Amon seront délivrés de sa main. C'est intéressant parce que c'est sur ce territoire que se trouve Petra. On ne sait pas si ce sera là le lieu de sécurité, mais on voit que ces endroits-là seront protégés. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il continue à parler de l'Égypte ici? Probablement parce que l'Égypte sera le roi du Sud. C'est ce que je pense. Historiquement, ça a été le cas. Il y a un faux prophète qui se dit ministre de Dieu actuellement et qui continue à dire que l'Iran est le roi du Sud. Mais cet homme-là ne comprend rien. Ça a été un de mes étudiants, en passant. Mais je ne lui ai pas enseigné ça, absolument pas. Il dit que l'Iran est le roi du Sud. Ce n'est pas le cas. L'Iran est au nord-est de Jérusalem. Regardez sur une carte géographique. Considérez ça à partir du point de vue central de Jérusalem. L'Iran est au nord-est de Jérusalem, non pas au sud. Le roi du sud sera probablement l'Égypte ou l'Arabie saoudite, ou une de ces nations de la région au sud de Jérusalem. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Alors, cette puissance va fondre sur les Arabes. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Qu'est-ce qui est au nord-est d'Israël, de Jérusalem? C'est la Russie. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura une armée de 200 millions d'hommes qui vont se présenter. Lisez Apocalypse 9, verset 16. Cette région du monde auront une peur bleue de la bête et de ce qu'elle est en train de faire. Probablement la Chine, une partie des Indes, peut-être toutes les Indes, et la Russie, avec leur grande population, vont être capables de mettre en marche une armée de 200 millions d'hommes. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. C'est la bête qui fera ça. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit en aide. Apocalypse 19, verset 20, décrit ce qui se passe à ce moment-là. Le Christ revient. Il saisit la bête et le faux prophète et les jette dans l'étang de feu pour être détruits. Personne ne pourra leur venir en aide, comme c'est écrit ici. Allez à la page précédente, au verset 31, s'il vous plaît. Page précédente, verset 31. On va parler de quelque chose qui va s'être produit un petit peu avant ce que je viens de vous décrire. Daniel 11 et le verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire. Alors des troupes se présenteront sur l'ordre de la bête, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel. D'autres passages des Écritures indiquent que le prochain dictateur en Europe va s'associer un peu avec Israël. Vous savez, les Allemands ont un complexe de culpabilité à cause de l'Holocauste. Parce qu'ils ont éliminé et martyrisé des millions de Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils manifestent en ce moment beaucoup d'ouverture envers Israël et même offrent à Israël leur protection. Donc, ils vont approcher Israël avec paix au début et ils vont permettre certaines alliances. Ces alliances-là vont permettre aux Juifs de recommencer à faire des sacrifices d'animaux à Jérusalem. Est-ce que les Juifs vont le faire sur le mont du Temple, où le Temple de Salomon, selon certains, se trouvait, mais certains de nos experts ont dit que ce n'est pas l'endroit réel où était le Temple de Salomon. C'est peut-être pas à cet endroit exact, mais quelque part dans la ville de Jérusalem, il y aura des sacrifices d'animaux qui vont reprendre. Surveillez ces choses-là. Dieu est réel. Nous parlons de nations spécifiques sur la terre actuellement. Comment est-ce que je peux dire des choses aussi précises? Parce qu'il existe un Dieu au ciel et ce Dieu est en train d'intervenir. Et Dieu a suscité l'œuvre que nous faisons. Il va la bénir avec puissance pour que nous terminions de lancer le message au monde. C'est notre responsabilité. Dieu veut que nous atteignions ces gens pendant que nous pouvons les atteindre avec le message. Alors, les sacrifices d'animaux vont reprendre. Mais à un moment donné, ces sacrifices arrêteront et dresseront l'abomination du dévastateur. Une idole païenne, comme ça a été fait dans le passé, sera installée à Jérusalem sur l'autel. La bête séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, c'est-à-dire selon l'original, feront des exploits. Nous devons être ces gens-là, frères et sœurs. Pensez-y, Nous vivons au temps de la fin. Le Dieu des cieux, le Dieu de la Bible, commence à intervenir maintenant au niveau de la température. Il fait en sorte que les nations de langue anglaise et les États-Unis sont en déclin majeur actuellement. Nous nous sommes détournés de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné toutes les bénédictions que nous avons. Nous nous sommes détournés de Dieu. Nous avons gagné la victoire de notre dernière guerre dans le passé. Nous pouvons peut-être remporter certaines petites batailles, mais c'est terminé. Nous ne remporterons plus de guerre. C'est terminé. Nous nous sommes détournés de Dieu. Dieu s'est détourné de nous. Dieu va permettre à ces gens d'accomplir de grands exploits au temps de la fin. Nous allons pouvoir avertir le monde. Nous allons pouvoir accomplir de grands miracles. J'espère que vous allez prier pour ça. À mesure que les événements vont s'accentuer, il nous faut davantage prier, marcher avec Dieu, étudier, lui donner notre vie avec passion, aller au-delà d'où nous sommes allés, être des sacrifices vivants, lui consacrer notre vie, notre temps, notre énergie pour supporter la mission d'annoncer l'Évangile. Vous ne pouvez pas donner à Dieu plus qu'il vous a donné. C'est lui qui vous a donné la vie, la respiration et tout ce que vous avez. Alors Dieu veut que nous accomplissions son œuvre. Demandons-le encore. Dieu va nous donner des forces spéciales pour chasser les démons, pour discerner les choses, pour guérir les malades à un niveau plus grand que ça a été fait auparavant. Pas parce que nous sommes bons, mais parce que Dieu est bon et c'est son temps. Dieu fait les choses en son temps et quand c'est le temps, il agit. Les apôtres du Christ n'étaient pas nécessairement plus justes que Jean-Baptiste. Et Jésus a dit de Jean-Baptiste qu'il n'y avait pas de plus grand prophète que lui, mais la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste n'a accompli aucun miracle, aucun signe. Combien de miracles Jean-Baptiste a-t-il accompli? Zéro. Pourquoi? Ce n'était pas le temps de Dieu encore. Récemment, nous avons eu plusieurs guérisons et j'en ai été témoin moi-même de plusieurs dans le passé aussi. Mais il n'y en a pas autant qu'il y en a eu au temps apostolique et pas aussi rapidement que nous le désirons. Mais ça va changer, je le crois vraiment. Si nous, en tant qu'Église, nous nous mettons à genoux et si nous nous consacrons à Dieu avec un zèle sans précédent et que nous le supplions de bénir son Église, son œuvre, et que nous lui demandons de nous utiliser avec force pour terminer le travail, nous allons faire les exploits dont il est question ici. Verset 33, « Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme et à la captivité et au pillage. Serons-nous persécutés? Oui, nous serons persécutés. » Je demande à chacun d'entre vous d'y penser d'avance et de prier Dieu pour cela. Vous savez, j'ai eu à y penser et je le considère. Si deux policiers viennent me chercher à la maison, j'espère que mon épouse est prête à cela. Je dois me préparer à cela. Ma première réaction serait peut-être de résister ou de crier, mais si c'est des vrais officiers de police, je devrais les suivre. Tout simplement, et je serai peut-être en prison, peut-être qu'ils nous mettront en prison, peut-être qu'ils nous battront et nous feront souffrir, je sais ces choses-là, et j'espère que vous le savez, que vous le réalisez. Ça va se passer pour quelques-uns d'entre nous avant que tout soit terminé. Il nous faut nous y préparer. Notre vie appartient à Dieu, ce n'est pas la nôtre, nous lui avons donné, nous allons être testés. Alors, il dit ici, dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Certains vont se joindre à nous pour sauver leur peau et peut-être qu'il y aura des espions parmi nous. Mais il dit ici, la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Nous avons eu une grande hérésie dans l'Église universel de Dieu. C'est terrible lorsqu'on pense à ce qui est arrivé. Je me rappelle tous les étudiants que j'ai eus, tous les ministres qui sont tombés et qui ont amené des gens en dehors de l'Église de Dieu. C'est terrible. Quand la vie physique des gens va être en danger, il y a des gens qui vont tenter de faire des compromis. Est-ce que vous allez faire des compromis? Qu'est-ce que vous feriez? À quel point Dieu est réel pour vous? À quel point le salut est réel pour vous? ou est-ce que vous allez retourner dans le monde rapidement? Combien de compromis faites-vous déjà actuellement? C'est tellement facile de faire des compromis, surtout pour sauver notre peau. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'elles soient épurées, purifiées et blanchies jusqu'au temps de la fin, car elle arrivera au temps marqué. Voyez-vous? Selon le temps de Dieu. C'est au temps de la fin que toutes ces choses-là se passent, et nous sommes au temps de la fin. Ces choses-là se préparent de façon plus rapide. Ça s'en vient, c'est tout proche de nous. J'espère que nous tous, nous pouvons prier à ce sujet-là, nous préparer et faire notre part. Une œuvre puissante est en train de se faire et doit être faite, plus puissante que ce que nous faisons. Quelque part sur cette terre, Dieu a un peuple et il veut avoir un peuple qui accomplissent cette mission. Et nous sommes ce peuple. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Je fais des erreurs chaque jour de ma vie. Par contre, je n'ai jamais fait de grandes erreurs pour mettre l'œuvre en péril. J'essaie de m'appliquer à craindre Dieu, à révérer Dieu et à prendre mes décisions en fonction de ce qu'il demande. Monsieur Ames, ici, est un des hommes les plus dévoués que je connaisse. Fidèle, gentil, sage, dévoué, zélé, avec une belle personnalité qui obtient beaucoup de réponses à ses émissions de télévision. C'est celui que j'ai désigné pour me succéder s'il m'arrive quelque chose. Et M. Ames et moi, nous avons considéré la possibilité de deux ou trois hommes aussi si nous décédons tous les deux pour que quelqu'un prenne la relève. Je nomme pas personne, bien sûr, pour que vous pensiez qui ça pourrait être. Non, non, on a pensé à trois ou quatre. Si ces hommes-là n'étaient pas prêts, ce sera quelqu'un d'autre de plus jeune qui pourrait prendre la relève. Dieu sait qui doit être en charge. C'est Dieu qui est le chef de l'Église. Frères et sœurs, écoutez, dans le passé, là, ce qui est arrivé à l'Église universelle de Dieu, jamais j'aurais pu imaginer ce qui s'est passé après la mort de M. Armstrong. Et je pense que personne d'entre nous n'aurait pu deviner que M. Joseph Tikash allait succéder à M. Armstrong. C'était un diacre à l'église de Chicago. C'est un homme qui était limité comme possibilité. Je ne vais pas vous donner les détails, mais je le connaissais très bien. C'était un homme qui était très limité. Et j'ai finalement accepté la demande de M. Dean Blackwell, qui était pasteur régional, de l'ordonner comme ministre. Jamais j'aurais pu croire qu'il puisse prendre les rênes de l'église. Mais c'était l'époque de Dieu. Comme Dr. Hay a dit, c'était l'époque où Dieu a décidé que l'Église de Laodicée devait commencer. Monsieur Hay nous a dit, l'ère de Laodicée ne peut pas commencer avant qu'une situation telle puisse arriver ou ça puisse se produire. Voyez-vous, si Monsieur McNair ou moi avions été nommés tout de suite après la mort de M. Armstrong, l'ère de Laodicée n'aurait pas commencé. Mais là, ça a commencé. Les gens ont commencé à être confus, sont allés dans toutes sortes de directions. Plusieurs ont commencé à faire chacun ce qu'ils voulaient. Dieu a testé ces gens à ce moment-là. Il a permis que cette chose-là se produise pour des raisons bien précises. Il a guidé les circonstances et il a mis la bonne personne en place pour faire ce test. Vous savez, M. Armstrong nous disait, il nous faut suivre nos leaders, mais il nous faut le faire à condition que nos leaders suivent le Christ. Ça ne veut pas dire que vous cherchez les plus petits défauts que nous pouvons avoir. Ah, M. Meredith a fait une petite erreur là, je pars de l'Église. Écoutez, vous auriez dû sortir de l'Église il y a 50 ans à ce moment-là parce que je faisais beaucoup plus d'erreurs à ce moment-là que j'en fais maintenant. Voyez l'image d'ensemble, la grande perspective. Regardez que les événements mondiaux annoncés arrivent. Regardez la mission de l'Église de Dieu, l'œuvre que Dieu bénit actuellement. Bien sûr, j'ai des faiblesses. M. Ames a des faiblesses. Nous ne sommes pas parfaits. Je n'ai jamais eu un être humain parfait sur cette terre, excepté un homme nommé Jésus. Quand on a demandé à quelqu'un qui avait été guéri qui l'a fait, il a dit « c'est un homme appelé Jésus, un homme nommé Jésus ». Jamais d'autre a été parfait en tant qu'être humain. Il faut regarder où est-ce que l'œuvre est faite, où est-ce que la vérité dans sa plus grande dimension est enseignée sur les choses de base de la Bible. Où est-ce que le gouvernement de Dieu est compris et administré et mis en pratique, dans quelle église, non pas parfaitement, mais au mieux possible et mieux que n'importe où ailleurs. C'est fait ici, dans l'église du Dieu vivant. Dans d'autres groupes issus de l'Église universelle, les gens votent. Dans d'autres groupes sortis de l'Église universelle, certains se prononcent comme étant prophètes et sont des dictateurs sévères, mettent dehors les gens de l'Église qui mangent avec des gens de leur famille même qui ne sont pas dans l'Église. Nous ne faisons pas ça dans l'Église de Dieu. Je pense que vous comprenez le principe. Voyez la perspective d'ensemble. Il nous faut nous coller ensemble, nous coller au Christ et faire l'œuvre de tout notre cœur. Allons maintenant à Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, verset 1. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, frères et sœurs. Sachez bien ceci. Lorsqu'on va au début du livre d'Ézéchiel, on voit que Ézéchiel était un Lévite, un sacrificateur. Et Dieu envoyait Ézéchiel pour livrer un message à la nation d'Israël. Dieu a dit, avertis-les de ma part, avertis Israël de ma part. Alors Ézéchiel a écrit plusieurs choses qui ne se sont pas encore produites. Parce que au moment où Ézéchiel a écrit, c'était longtemps après qu'Israël eût été amené en captivité. Alors, il était déjà en captivité. Voyez-vous, Ézéchiel a vécu entre 593 et 571 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, il a écrit dans cette période-là. Et la captivité d'Israël s'est faite en 721 avant Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, Israël avait été amené en captivité plus de 120 ans avant qu'Ézéchiel prophétise. Et quand Ézéchiel dit « Israël et la maison d'Israël et toute la nation d'Israël », comme il dit à deux reprises, « va aller en captivité », ça ne s'est jamais produit. Donc, de quoi parle-t-il? Ça parle de ce qui s'en vient bientôt au temps de la fin. Ça a été écrit pour le temps de la fin. C'est quelque chose qui doit arriver au cours de la vie de la plupart d'entre nous, si nous sommes encore vivants. Voilà ce qui va se passer. Ça ne s'est pas produit encore. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. M. Armstrong dit qu'ils ont fait ça envers lui, ils l'ont soutenu financièrement, les gens l'ont soutenu par leurs prières. Et c'est ce que vous faites envers nous, qui sommes les leaders de l'Église aujourd'hui. Vous nous soutenez et je vous en remercie beaucoup. Sans ça, on ne pourrait pas fraîcher l'Évangile. Si on meurt en le faisant, très bien, notre vie appartient à Dieu. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, verset 3. Nous devons avertir les gens avec le plus de force possible. Et je veux que nous développions la force de l'œuvre le plus possible. Mais il faut que j'aille avec sagesse. Certains me disent, pourquoi ne parlez-vous pas plus directement et plus fort dans les émissions de télévision? Il nous faut être sages comme des serpents et doux comme des colombes, parce que si nous allons trop fort, il faut y aller jusqu'à un certain point, mais pour rester encore à la télévision, pour que la porte reste ouverte, il ne faut pas aller trop loin non plus. Nous parlons plus fort, bien sûr, dans nos campagnes de conférences pour nos abonnés ou sur le site Internet. Il y aura des espions qui vont venir à l'Église. Vous êtes peut-être un espion qui est assis avec le membre de l'Église. C'est difficile pour vous, pas pour moi. Dieu va me protéger. Vous ne pouvez rien me faire, à moins que ce soit la période que Dieu ait pourvue pour moi. À moins que ce soit la volonté de Dieu. Vous ne comprenez pas la vérité si vous faites ça et vous êtes plus en danger que moi. Dieu a fait de certains ses sentinelles. Et si quelqu'un entend le son de la trompette et ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée, M. Ames et moi et les autres ministres, on voit l'épée venir et nous avertissons les gens. Et ne sonne pas de la trompette. Et il nous faut avertir les gens avec force. Et nous leur disons, réveillez-vous en Amérique, en Angleterre et dans les autres pays. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un sa vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Nous avons responsabilité devant Dieu de publier ce message avec force. Et frères et sœurs, vous faites partie de l'équipe de la Sentinelle. M. Armstrong l'a dit. C'était un homme de Dieu et nous soutenions son bras. Et vous, vous soutenez nos bras, vous soutenez les bras de vos leaders par vos prières, par vos encouragements, par vos dîmes, par l'aide directe que certains apportent en servant dans l'œuvre de toutes sortes de façons. Et toi, fils de l'homme, verset 7, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Nous avertissons les nations pour Jésus-Christ, le chef de l'Église. Alors, il nous faut nous impliquer en cela de tout notre cœur. Il nous faut être vraiment engagés et il nous faut que nous soyons tous engagés dans l'Église, que nous ayons le courage qu'il faut et aller au-delà de ce que nous faisions avant. Prier, jeûner, sacrifier nos vies, un peu comme la pauvre veuve que le Christ cite. Il dit, la pauvre veuve qui a mis 2 sous dans le tronc du temple a donné davantage parce qu'elle a donné de son nécessaire, alors que des gens riches ont donné simplement leur superflu. Et Dieu a honoré cette dame en écrivant ce récit dans la Bible. Nous avons la possibilité de soutenir son œuvre, de servir Dieu et de lui donner notre vie. Il faut préparer un peuple pour Dieu au temps de la fin. Nous devons vous préparer à être des rois et des enseignants dans le monde à venir. Et la fin approche. Allons maintenant à Apocalypse. Apocalypse, nous allons aller à Apocalypse chapitre 2 et le verset 26. 2, 26. Il nous faut réfléchir à cela. Nous sommes au temps de la fin. À celui qui vaincra. Il ne faut pas simplement s'asseoir et attendre que le Christ revienne. Absolument pas. Vous croissez, vous développez la connaissance, vous vainquez, vous développez le caractère de Dieu. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Il y a des œuvres à faire, il y a des actions à poser. À lui, je donnerai autorité sur les nations. Est-ce que Dieu va vous donner grande puissance si vous faites simplement attendre? Non, il faut persévérer jusqu'à la fin par la prière, par le jeûne, en payant les dîmes, en donnant des offrandes au-delà même de ce que vous faisiez, aider les autres, servir, encourager les gens, prier pour les gens, leur téléphoner, leur écrire, avoir un impact. À celui-là, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27. Il les pètera avec une verge de fer. Voyez-vous, nous allons aider les gens d'une façon incroyable. Ils n'auront jamais vécu ça. Les gens vont pleurer de joie. Ces centaines de millions d'êtres humains qui pourront avoir la chance d'entrer dans la famille de Dieu à ce moment-là. Nous aurons la possibilité de servir les nations. Allons à Apocalypse chapitre 5 maintenant. Ça parle de la prière des saints au verset 8. Les saints chantaient un nouveau chant. Verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu. » Nous avons pris la Pâque, comme chaque année. Ne l'oublions pas. Comme j'ai dit avant, nous sommes l'Église des rachetés. Nous ne sommes pas l'Église des bons. Nous sommes l'Église des rachetés, des pardonnés, chacun d'entre nous a dû être pardonné. Chaque jour, nous devons être pardonnés encore de nos faiblesses que nous sommes en train de vaincre. Nous avons été rachetés par le sang du Fils même de Dieu. Et nous avons été rachetés dans l'Église à partir de toute tribu, toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Le plan du Christ, c'est de faire de nous un royaume, un gouvernement de prêtre, c'est-à-dire de roi et de sacrificateur, comme ça a été le cas pour Moïse et pour Aaron. Moïse était un lévite, il a lui-même offert des sacrifices aussi, et il agissait comme un roi, il administrait le gouvernement, et il enseignait aux gens les voies de Dieu, les lois de Dieu. C'est ce que nous allons faire, et nous allons le faire en la présence du Christ. Et d'une certaine façon, ça a été le cas de Moïse aussi, parce que Moïse a pu voir le Christ face à face, le Christ qui était le Dieu de l'Ancien Testament. Dans le monde à venir, le Christ va nous montrer exactement à avoir soin des nations et à en prendre soin de bonne façon. Et c'est pour ça que maintenant, il faut développer le caractère de Christ. Et il nous faut nous nourrir de la parole de Dieu qui est le Christ en écrit. Lorsque viendra le temps dans le monde à venir, le Christ fera les derniers petits ajustements pour nous aider à régner de bonne façon, pour que nous le fassions de façon parfaite. Il nous aura donné un corps spirituel parfait et nous allons pouvoir régner de façon parfaite avec son aide. Dieu a dit à Abraham, « Je t'ai fait père de nombreuses nations », mais ça ne s'est pas fait à ce moment-là. C'est venu seulement par après. Ces nations-là ne sont pas apparues avant des centaines et des milliers d'années par après. Comme c'est écrit dans Romains 4, 17, Dieu appelle les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit une chose, c'est comme si la chose existait et rien ne peut l'empêcher. C'est pour ça qu'il dit de nous ici, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Pour lui, c'est comme si c'était fait. Parce que rien ne va l'empêcher de le faire. Nous allons pouvoir amener la paix et la joie à la terre entière. Nous allons régner sur la terre. Comment est-ce que nous allons faire ça? Nous sommes en train d'être préparés. Nous nous impliquons dans l'œuvre de Dieu. Et il y a des hommes qui suivent les cours de leadership. Il y a des hommes qui suivent les clubs des orateurs, là où c'est possible. Certains servent en tant que diacres. Les membres servent de toutes sortes de façons. On n'est pas obligé d'avoir des postes officiels pour servir, mais on est une équipe en préparation. Il nous faut être actifs au mieux de ce que nous pouvons faire. Certains d'entre vous êtes plus âgés et vous ne pouvez pas faire les mêmes choses que vous faisiez il y a quelques années. Mais faites au mieux. Je vous ai déjà parlé d'une dame, Chloe Shepherd, en Oregon. Elle aurait pu être presque ma grand-mère. C'était une femme très serviable dans l'Église. Et moi, je venais d'être gradué de l'ambassadeur collège à ce moment-là et je commençais à prêcher depuis seulement 4 à 6 mois. Chaque semaine, quand je donnais un sermon, je recevais une lettre de cette dame et elle disait, « Monsieur Meredith, on apprécie que vous soyez venu nous voir. Nous aimons vos sermons. Vous êtes un bon prédicateur. » Quelques années après, je regardais ces lettres-là et je me disais, « Non, je n'étais pas un si bon orateur que ça. » La vieille dame m'encourageait chaque semaine et ça a fait une grosse différence pour moi. Elle m'a offert à un moment donné de venir nettoyer mon appartement. Elle disait, vous avez besoin que j'aille nettoyer votre appartement. Je disais, non, non, madame. La semaine suivante, elle m'a offert la même chose encore. La semaine suivante, elle s'est présentée avec une autre dame sans que je lui demande. Et elle est arrivée avec un seau, un balai, des éponges. Et elle a dit, on est ici pour vous aider. Et elle est venue nettoyer mon appartement. Elle a trouvé de la poussière que moi, je n'avais pas vue. Vous savez, les jeunes hommes en appartement ne font pas attention à ces choses-là. Elle aidait tout le monde de toutes sortes de façons. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Regardez les besoins autour. Sans que vous ayez un poste, vous pouvez servir de toutes sortes de façons. Il y a des jeunes femmes qui ont des enfants. Encouragez ces jeunes femmes-là. Allez les aider. Gardez les autres enfants aux besoins. Allons à 1 Corinthiens maintenant, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, s'il vous plaît. Alors, il y a toutes sortes de façons par lesquelles on peut servir comme ça les autres. Un coup de téléphone, une petite lettre, un mot d'encouragement. 1 Corinthiens, chapitre 6. On se prépare. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il aller plaider devant les injustes et non devant les saints? Pourquoi est-ce que vous iriez dans le monde à une cour mondaine? Pourquoi? C'est la façon dont vous voyez les choses auparavant, mais si vous êtes vraiment converti, comment pourriez-vous penser encore comme ça? Verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre des jugements? Il y a des hommes dans l'Église de Dieu à qui vous pouvez faire confiance, sûrement, à qui vous pouvez faire confiance beaucoup plus que les juges dans le monde, vous savez. Je fais des blagues avec M. Ligue ici à ce sujet-là, mais écoutez, vous avez des ministres qui sont là pour ça. Je me rappelle, le juge Wiseman a pris en charge l'Église universelle de Dieu au moment où il y a eu un contrôle judiciaire imposé sur l'Église et il a dit, je suis ici au nom de l'État pour diriger l'Église, mais je ne fais pas partie de votre Église. Je suis juif, je ne suis pas de votre foi, alors je vais désigner un tel pour cette fonction-là. On entend parler des juges de toutes sortes de façons, on voit toutes sortes d'articles dans les journaux. Écoutez, il faut développer cette foi à savoir que le Christ est le chef de l'Église, c'est lui qui dirige les ministres. Si quelqu'un vous dit de faire quelque chose de contraire aux 10 commandements, vous ne le faites pas. Bien sûr, faites confiance au Christ qui dirige son ministère. Et le Christ nous le montre dans plusieurs écritures de la Bible. Si vous voyez que l'Église est l'Église de Dieu et qu'elle accomplit la mission, suivez cette Église-là, suivez ses dirigeants pour autant qu'ils suivent le Christ et qu'ils continuent d'accomplir l'œuvre. Alors, êtes-vous donc incapable de prendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas, verset 3, que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Écoutez, nous allons juger les anges, nous allons administrer les anges. Nous devons développer cette compréhension-là entre nous maintenant, apprendre les bonnes décisions et à régler les petits problèmes, les conflits, et ainsi de suite. Nous nous préparons à être une équipe d'enseignants et de rois qui allons collaborer ensemble et nous allons répondre totalement au leadership de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons développer maintenant. C'est ce que nous devons faire maintenant en tant qu'équipe. En préparation de servir dans le monde à venir, nous apprenons le gouvernement de Dieu. Allons une dernière fois à Daniel chapitre 12 maintenant. Daniel chapitre 12. Voyons chapitre 11, verset 40. On voit le temps où ça s'adresse. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. On voit à quelle époque c'est. Chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, au temps de la fin, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Quelque chose de plus terrible de toute l'histoire de l'humanité. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés écrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ce sera la résurrection des morts. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre. Pour la honte éternelle, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Plus vous vous impliquez dans l'équipe du Christ en préparation maintenant, plus vous vous impliquez dans son œuvre, plus vous y consacrez votre temps, votre vie, vos énergies, plus Dieu va vous bénir maintenant et à jamais. C'est très clair, il le répète à plusieurs reprises. Et vous allez briller comme les étoiles du ciel à toujours et à perpétuité. Allez à Hébreux maintenant pour un dernier verset. Hébreux chapitre 12. Dans ce contexte ici, ça montre le moment où l'ancienne nation d'Israël est allée au mont Sinaï et que Dieu a donné sa loi. La montagne était en feu. Et regardez le verset 21, « Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté, tout tremblant. » Verset 22, « C'était comme un grand tremblement de terre, il y avait de la fumée qui sortait de la montagne. Mais vous, en parlant de vous aujourd'hui, mais vous, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. » Voyez-vous, spirituellement parlant, nous nous sommes approchés de Dieu, de son gouvernement, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, des millions et des millions d'anges qui font partie du royaume de Dieu. Imaginez-vous la gloire que ça représente. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous. Est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? J'espère que c'est le cas. La plupart d'entre vous, ça doit être le cas. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Pensez-y un peu. Il y a une essence spirituelle en vous, dans votre cerveau. Quand vous mourrez, le corps disparaît, retourne en poussière. Mais cette essence spirituelle, l'esprit dans l'homme, retourne à Dieu. Et à ce moment-là, vous rejoignez les esprits des saints qui sont morts et qui sont en réserve dans les mains de Dieu. Dieu vous a guidé au cours de votre vie, vous a préparé en développant son caractère, sa personnalité. Il vous a appris comment devenir comme le Christ pour devenir ses enfants, devenir des enseignants, devenir ses enfants à part entière. des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Pensez-y un peu. On ne peut pas refuser que Dieu nous parle aujourd'hui si vous l'entendez. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Il nous faut prêter oreille à ce que Dieu dit et agir. Lui dont la voix ébranla alors la terre par sa voix. C'était la voix du Christ, le Dieu d'Israël, le porte-parole du Tout-Puissant, le gouverneur de l'univers, qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Vous ne perdrez pas votre place dans le royaume de Dieu si vous restez ferme. Il a promis de ne jamais vous abandonner si vous ne vous détournez pas. Son royaume ne peut pas être ébranlé ni détruit. Verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec un profond respect, avec révérence. Notre vie appartient à Dieu. S'il nous jette dans une fournaise ardente et qu'on voit les flammes se lever, notre première réaction, c'est peut-être de vouloir sauver notre peau. Faire un compromis, se prosterner devant une idole catholique, est-ce que vous le feriez? Certains d'entre vous, vous le feriez. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas fait ça. Et Dieu est intervenu par un miracle grandiose. Nous aurons certaines épreuves, peut-être pas exactement comme ça, mais nous aurons des épreuves d'ici la fin. Il nous faut savoir que Dieu est là. Il nous faut nous rappeler ce que Dieu a fait. Il nous faut savoir que Dieu est réel. Il nous faut voir que cette petite église est l'église de Dieu, même si elle n'est pas parfaite. Alors, il nous faut rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu n'entend pas à rire. Il nous faut être avec lui de tout cœur pour être dans son royaume. Il nous faut finir le travail avec courage, être des sacrifices vivants et donner notre vie à Dieu, marcher vers la vie éternelle, alors que Dieu va nous donner le pouvoir, la majesté dans sa famille. Nous allons pouvoir interagir directement avec Dieu, marcher avec lui à ce moment-là, communiquer avec lui, être en communion très étroite avec lui en tant que fils à part entière de Dieu durant toute l'éternité, parce que nous aurons vaincu et nous aurons atteint le but pour lequel il nous a créés et pour lequel il nous a donné la vie et son Saint-Esprit.